Merci.
La dispute art plastique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Amine El-Mansari. Réalisation Alexandre Fougeron. Autour de moi, ce soir, Corinne Rondeau, Anaël Pijat et Stéphane Coréard pour parler ensemble de l'exposition Jean-Jacques Lequeux, bâtisseur de fantasmes, c'est au Petit Palais. Renoir, père et fils, peinture et cinéma, c'est au Musée d'Orsay. Une avant-garde polonaise, Katarina Kobro et Vladislav Streminski au Centre Pompidou. Il y aura également un coup de cœur. Délivré ce soir par Corinne Rondeau pour le livre « Les métamorphoses de l'argentique » de Denis Bréa aux éditions Le Bec en l'air. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour le film « Monsieur » de Rowena Guerra, aujourd'hui au cinéma. Et nous ouvrons cette dispute avec l'exposition consacrée à Jean-Jacques Lequeux au Petit Palais, exposition organisée avec la BNF, Bibliothèque Nationale de France. Pourquoi la BNF ? Parce que 6 mois avant sa mort, dans une grande pauvreté, Jean-Jacques Lequeux a déposé plusieurs centaines de dessins à la Bibliothèque Nationale. Cet ensemble est pour la première fois présenté aussi vastement au public et montre combien Lequeux, né en 1757, mort en 1826, a imaginé sans relâche quantité et quantité d'architecture, annotant ses dessins aussi avec une très grande précision. Les commissaires de cette exposition sont nombreux, je les cite, Laurent Baridon, Jean-Philippe Garrick, Martial Guédron, Corinne Le Bitouzé, Christophe Leribaud, avec le concours de Joël Reynaud. Voilà bien longtemps déjà que Stéphane Coréard brûle de parler de cette exposition Jean-Jacques Lequeux. C'est maintenant, Stéphane.
Eh bien oui, en effet, Arnaud, je brûle d'en parler, comme je pense nos auditeurs brûlent d'aller la voir, parce que j'ai envie de dire enfin une exposition Jean-Jacques Lequeux.
Si vous avez envie de le dire, dites-le.
Oui, enfin. Enfin, c'est la première exposition consacrée à Jean-Jacques Lequeux, qui est un génie méconnu, mais surtout mystérieux. Il est mystérieux parce que son existence est à peu près attestée. On sait quand il est né, on sait ce qu'il a fait, il était gratte-papier pour différents ministères. On sait aussi quand il est mort, mais son œuvre reste totalement mystérieuse dans le sens où elle n'a eu qu'une gloire posthume. Il n'y a aucune trace quasiment de choses qu'il ait faites de son vivant, qui ne soit parvenue ni d'architecture réalisée, bien sûr, ça on va le voir, ni même de gravures diffusées, ni même de livres publiés. Donc on a cru pendant longtemps, si je puis dire, parce qu'en fait c'est un dessinateur d'architecture qui a été reconnu seulement à partir de 1930, à l'égal de Ledoux et de Boulay, comme un architecte visionnaire, révolutionnaire. On va voir si c'est le cas, mais disons que c'est comme ça, en tout cas, qu'il est revenu sur le devant de la scène. Enfin, venu, d'ailleurs, pour la première fois sur le devant de la scène. Mais très vite après, c'est Marcel Duchamp, qui un autre Rouennais, comme lui, qui s'en est emparé. On sait que Duchamp a beaucoup fait de recherches sur Lequeux à la Bibliothèque Nationale. Même certains exégètes pensent qu'il a pu soit réalisé des dessins qu'il a rajoutés dans les pochettes, soit rajouté des annotations, changé le sens de certains dessins. Bon, tout ça est à peu près évacué de l'exposition, mais c'est pour dire à quel point c'était important et attendu. Il a effectivement tout donné à la Bibliothèque Royale à l'époque, devenue Bibliothèque Nationale, 6 mois avant sa mort, après avoir essayé de les vendre, ses dessins en vain. C'est des dessins pourtant extrêmement beaux, extrêmement détaillés, hein, à noter, d'une polychromie savante, subtile. C'est lui-même qui, a priori, broyait ses couleurs. Donc les dessins sont effectivement très très beaux. L'exposition rend compte totalement de ce fond de la BNF. Hein, il y a 800 feuilles. Malheureusement, on ne sait plus même dans quel ordre ces feuilles ont été données, parce que très vite, ça a été séparé, mis dans plusieurs fonds, et notamment, on va le voir, une partie a rejoint l'enfer. Assez naturellement. Et puis effectivement, je parlais de Marcel Duchamp, c'est d'autant plus compliqué que Lequeux lui-même pratique l'autofiction. Des citations sont apocryphes, des dates sont falsifiées, un dessin peut recouvrir plusieurs sens, donc c'est un vrai labyrinthe, un vrai jeu de pistes. L'exposition, donc en 200 dessins je crois, rend compte de cette pratique qui en compte à peu près 800 dans le fond de la BNF, de manière assez fidèle, c'est-à-dire que le corps de l'exposition, ce sont ces dessins d'architecture, mais des dessins d'intérieur, d'extérieur, de façade, beaucoup de jardins également, beaucoup. Et c'est pris dans l'exposition, comme dans l'œuvre de Lequeux, finalement, entre deux parenthèses. La première, c'est tout le travail sur la physionomie. C'est ce qui ouvre l'exposition, notamment des autoportraits, des travaux sur des grimaces qui rappellent tout à fait les sculptures de Messerschmitt, mais qui n'ont pas beaucoup d'équivalent sinon dans l'art du 18e, début du 19e siècle. Notamment un bailleur, par exemple, extraordinaire, un jeune homme qui fait la moue, enfin extrêmement expressif, dont on pense qu'il s'est inspiré de sa propre figure. On connaît aussi des autoportraits de lui, y compris en femme. On va voir que il y a un travail sur le genre qui est très particulier. D'ailleurs, on vient de retrouver l'inventaire qui a été fait après son décès. Il y avait quasiment que des vêtements féminins, alors qu'il n'avait pas de femme. Et on ne sait pas ce qu'il faisait de ces vêtements féminins.
Et que ses modèles sont largement déshabillés.
Et par ailleurs, c'est exactement la dernière parenthèse, celle qui clôt l'exposition, c'est évidemment la plus sulfureuse, c'est la partie pornographique,
infernale,
de son travail, infernale, effectivement, qui était, d'ailleurs, je trouve ça très beau à la BNF, gardée sous une rubrique qui s'appelle Figures lascives et obscènes.
C'est bien dit. Voilà, après cette magnifique introduction de Stéphane Correa, plongeons dans la matière, si je puis dire. Par quelle boule attraper Corinne Rondeau?
Mais écoutez, je dirais le début, c'est la physionomie, la fin, c'est le phimosis, pour faire assez vite et faire un résumé de ce que vient de dire Stéphane. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit effectivement cette perfection graphique qui est absolument inouïe. Et dès qu'on arrive dès les premiers portraits, on est happé littéralement à être au plus près de ces dessins qui sont extraordinaires, vraiment, par le toucher, la délicatesse, la rigueur. Il a une formation de dessin technique, vraiment. Il connaît parfaitement la géométrie. C'est quelqu'un dont on va voir après les portraits d'ailleurs, ce qui a dû plaire Duchamp, tout ce qui relève de la représentation mécanique, d'objets mécaniques. Donc ce qui est assez fascinant, je dois dire, sur les premiers portraits, par exemple l'homme à la lippe, si vous approchez les boutonnières, elles ont quelque chose d'une étrange mollesse qu'on va un peu retrouver à la fin de l'exposition. De la même manière, vous avez Il tire la langue, encore un portrait, et quand vous le regardez de près, vous voyez qu'il y a une dent de devant. Il y a une dent qui fait la symétrie, donc une extravagante symétrie, puisqu'au lieu d'avoir deux incisives au devant, eh bien il n'y en a qu'une. Donc en fait, qui va d'ailleurs rejoindre le sillon médian de la langue. Donc il y a quelque chose de cette symétrie, quelque chose de cette rigueur qui est tout à fait étonnante, qui est fascinante. Et c'est vrai, faire cette exposition, moi je suis restée un petit moment, mais je suis sortie avec mal à la tête parce que je regardais de très très près. Et comme l'a dit tout à l'heure Stéphane, c'est quelqu'un qui n'a pas pu passer à la gravure ni à l'imprimé, contrairement à Ledoux et Boulay qui font partie des trois, comme on a dit, architecte révolutionnaire, mais Lequeux est généralement exclu. Enfin, il relève en tout cas de l'utopie géométrique de la forme. Piranès, lui, c'est plutôt une utopie de l'antique. Et effectivement, Lequeux est quand même... il est sans architecture, c'est-à-dire sans réalisation. Donc il est surtout aussi exclu, même si Boulay a moins réalisé que Ledoux. Et Ledoux, mais Ledoux ne dessinait pas et Boulay avait des brillants dessinateurs. Il n'y a que Lequeux qui dessinait lui-même. D'ailleurs, le pauvre, il arrive chez Soufflot, le grand architecte du Panthéon, et il meurt un an après. Donc le type n'a pas de bol. Il veut les révolutionnaires, on lui dit non. Il y a la restauration, on lui dit non. Il faut attendre quasiment 2 siècles pour que ce type ait une place. Et puis c'est vraiment la première expo où voilà, finalement on a le regard posé sur des choses qui sont absolument sidérante, parce que la minutie de ces façades, de ces palais. Mais il y a une indication qui est assez claire pour dans l'exposition, c'est le songe de Polyphile. Songe de Polyphile, qui a été écrit par, apparemment, mais c'est une retranscription de Francesco Colonna, qui était un architecte du XVIe siècle. C'est un livre qui a beaucoup marqué les peintres de l'époque. C'est un texte franc-maçonnique. C'est un texte où là, c'est un rêve initiatique où, Polyphile est à la recherche de sa bien-aimée Polia. Et, pour découvrir quoi? Ben, la contemplation de Vénus. Donc, c'est un jardin idéal dans lequel il y a des temples, il y a des inscriptions, il y a des tas de langues, l'arabe, le grec, le latin. Donc, c'est le labyrinthe qu'évoquait tout à l'heure Stéphane, pour moi, relève vraiment de cette dimension labyrinthique à la fois du texte et de l'image, puisque le que, ce qui est fascinant, ce qui a autant à lire qu'à voir. Et on a vraiment, au fur et à mesure qu'on passe les Simèzes, au fur et à mesure qu'on traverse les architectures, qu'il appelle l'architecture civile, eh bien on voit, je dirais, une sorte de turgescence de la pensée visuelle et formelle de Lequeux, qui ne cesse d'être dans le caprice, hein, ce mot de caprice, qui est d'ailleurs condamné par Quatremer de Quincy, qui disait que, grosso modo, celui qui a trop de technique fabrique des monstres. Eh bien, il y a un plaisir de la difficulté à dessiner qui relève, je dirais, de quelqu'un comme Maillot, comme vous aimez beaucoup, Stéphane, un artiste contemporain. Et il y a cette espèce de... Voilà, ça frémit, ça gonfle, on va dire, et quand on arrive à la fin avec ce phimosis... Mamma mia, je vous laisse la parole, cher Anaël.
On fait tourner cette parole, effectivement, Anaël Pijac, on n'a pas encore vu sur Jean-Jacques Lequeux l'exposition du Petit Palais en ce moment.
Mais c'est effectivement la redécouverte d'une redécouverte dans des années 30, dont parlait Stéphane. Mais dans les années 60 et dans les années 70, on a parlé de Lequeux d'une manière assez psychologisante, en faisant des interprétations sur son caractère, sur effectivement toute la part d'ombre qui entoure ce personnage. L'exposition du Petit Palais montre les choses un peu différemment, mais surtout l'accent entre ce lien entre l'architecture et le corps dont vous parliez, Corinne, à l'instant, et qui est absolument, enfin, d'une ambiguïté totale. C'est-à-dire qu'on voit des murs aussi qui sont couverts de végétation qui frémit aussi complètement d'une manière extrêmement bizarre. C'est un et les sculptures, il y a par exemple un dessin qui fait d'ailleurs l'affiche de l'exposition qui s'intitule Il est libre, dans lequel on a l'impression de voir une sculpture qui se détache d'une arche en pierre. Peut-être est-ce une femme qui libère un oiseau lyre, est-ce qu'elle essaye de le rattraper? Enfin, on ne sait pas si c'est un dessin érotique ou si c'est au contraire un dessin révolutionnaire. Finalement, c'est tout l'éclectisme de Lequeux que montre cette exposition, donc avec toutes ces différences de sujets qui se rejoignent dans cette ambiguïté entre le corps et l'architecture. Annie Lebrun, qui fait un texte dans le catalogue, dit assez joliment que Lequeux se situe peut-être entre l'origine du monde de Courbet et le facteur cheval. On peut en discuter, mais c'est quand même c'est quand même une manière assez imagée de dire les choses. Elle parle en tout cas d'une architecture du désir et pas d'une architecture de pouvoir, ce que je trouve assez juste. C'est aussi un travail qui est extrêmement plein d'humour, puisque oui, il y a beaucoup de langues, il y a aussi du faux grec par exemple, c'est-à-dire des phrases en français qui sont écrites en lettres grecques. Il y a par exemple une étable en forme de vache, une laiterie, le projet d'une laiterie dont la porte est recouverte de pies de vache. Il y a un kiosque éléphant, il y a toutes sortes de jeux de mots, par exemple le jeune homme méprisé, donc qui est en fait épris, médite sa vengeance. Il y a une extrême fantaisie qui se dégage de l'œuvre de Lequeux, et en fait sa singularité résonne d'une manière extrêmement vivante aujourd'hui, avec toute sa part de mystère.
Stéphane, et si on est entré vraiment dans cet enfer quand même, parce qu'on en parle, on emploie des mots savants, pas Corinne Rondeau, mais on va donner quelques images.
Je suis content en tout cas Corinne Rondeau ait parlé de Philippe Maillot, parce que c'est vrai que c'est par lui que j'ai connu Lequeux. Il a fait plusieurs œuvres d'après Lequeux, et notamment d'après l'infâme Vénus couchée, qui est sous-titrée Posture lubrique d'après nature, qui est un corps de femme saisi, c'est quasiment un pendant de l'origine du monde. Il est saisi sans les jambes et sans la tête, en fait, comme un paysage. Moi, ce qui m'a effectivement intéressé, d'ailleurs je voudrais dire à nos auditeurs que s'ils peuvent pas voir l'exposition, s'ils peuvent pas se procurer le catalogue, qui est très intéressant, ils peuvent aller sur le site Gallica de la BNF. Où toute l'œuvre de Lequeu est numérisée en haute définition. Et donc, ils pourront justement aller lire aussi, effectivement, tous ces commentaires, parce qu'il y a effectivement autant à voir qu'à lire. Moi, ce qui m'a intéressé, connaissant plutôt la partie infernale de l'œuvre de Lequeu, d'ailleurs, qui n'est pas, je trouve, curieusement entière dans l'exposition. Il manque une dizaine ou une quinzaine de feuilles, ce que je trouve bizarre, parce que c'est quand même, je comprends que ce soit relativement marginal sur les 800 feuilles, mais c'est quand même la partie la plus extraordinaire. Je pense que malheureusement, s'il avait fait que ses dessins d'architecture, peut-être qu'il serait pas passé à la postérité. Mais moi, ce qui m'a intéressé justement dans l'exposition le plus, c'est que comme les feuilles ne sont pas datées, finalement, c'est impossible de savoir quelle est l'évolution de son travail. Est-ce que c'est effectivement un artiste brut, un peu comme Souter, qui bien que comme Louis Souter, c'est-à-dire qui bien que cultivé, etc., finalement devient fou sur la fin de sa vie et la pornographie prend toute la place. Mais je pense pas, parce que ce qui est très troublant et très beau dans l'exposition, c'est qu'on se rend compte effectivement que cette charge érotique très troublante, elle est présente partout. Elle est présente dans tous les dessins d'architecture.
C'est un obsessionnel.
Et puis il y a effectivement beaucoup d'humour. Moi j'ai beaucoup aimé parce que effectivement il arrive à ce moment de la Révolution où les architectes sont obligés un peu de changer leur de tourner casaque parce qu'ils doivent trouver d'autres commanditaires. C'est plus les aristocrates évidemment qui vont les faire travailler. Donc par exemple il y a un magnifique projet de colonne pour un palais national qui s'appelle l'aristocrate enchaînée, hein, où la colonne est faite avec la cariatide, en fait, est un aristocrate effectivement entravé. Il y a des projets qui anticipent carrément sur le postmodernisme en architecture. Il y a notamment un des plus connus, le rendez-vous de Bellevue, qui est complètement absurde et humoristique. C'est un pur décor, en fait, et notamment en haut à droite, il y a un balcon dans lequel il y a une façade de temple grec. Enfin bon, il y a des dizaines de fenêtres de formes différentes, dont une, beaucoup glosé dessus en forme de serrure. Bon, effectivement, l'érotisme est très présent. Il est obsédé par quand même, il dessine beaucoup de tombeaux, de cénotaphes, d'urnes funéraires. Je ne sais pas si c'est une prémonition de sa propre gloire posthume ou je pense que ça joue manifestement beaucoup sur la frustration quand même. Tout dans son travail, on sent une énorme frustration à la fois d'ailleurs le titre de l'exposition, je trouve, est assez beau, Bâtisseur de fantasmes, parce qu'effectivement il n'a jamais rien construit, mais en même temps il a élaboré beaucoup de fantasmes et il a été lui-même l'objet de beaucoup de fantasmes. Donc moi je vois le titre dans un triple, quasiment une triple dimension. Mais il y a par exemple un très beau dessin qui s'appelle Ce qu'elle voit en songe, où on voit une femme lascive endormie et elle est entourée de motifs phalliques, et là c'est une espèce de bas-relief. Il y a la coupe de la petite grotte du souterrain du désert qui est en forme de vulve. Bon, après on peut les chercher en forme de vulve ou de phallus, c'est la moitié de son architecture. Il y a même la grande fontaine de l'Esplanade que j'ai beaucoup aimé, où sur le côté il y a deux sculptures de satyres et la place de leur sexe, c'est là où la fontaine jaillit.
Mais vous parliez tout à l'heure, Corinne Rondeau, de cette surenchère de la difficulté, de la complexité. Est-ce que c'est pas en lien, ce que je me suis demandé, même si la datation n'est pas possible, avec le fait de ne jamais construire, tant qu'à ne pas construire, autant aller encore plus loin dans la difficulté potentielle dans le dessin? Oui, c'est à vous, Corinne, que je parlais, parce que vous parliez de cette difficulté,
non,
cette complexité.
En tout cas, comme on n'a pas les dates exactement, en tout cas, moi, je suis le parcours, donc je trouve qu'il y a quelque chose qui ne cesse de se développer, puisque une fois que vous faites la physionomie, l'anatomie, les machines en termes de mécanisme, puis ensuite l'architecture, qui commence à avoir ses caprices partout, cette difficulté de travail, c'est une pure folie, je veux dire, la minutie, je veux dire, moi, je suis sortie avec mal à la tête tellement j'étais près des dessins, à lire tout ce qui était écrit. Et pour revenir sur, il attendait sa postérité, puisqu'il met sa sépulture avec un « de queue », avec un « X » à la fin. Donc, il a sans doute cette vision-là. Mais oui, on a la sensation qu'au moins cette dimension, alors si Annie Lebrun dit « le désir », moi je ne suis pas d'accord avec ce mot de « désir », je crois que c'est évidemment le fantasme qui est en jeu. En tout cas, ce type-là n'a pas cessé, même si on lui a dit « non ». Non, ce mec n'a pas cessé d'aller au bout, et je pense qu'il devait être aussi dans un cabinet, plutôt un boudoir à la Sade, ça c'est sûr. Moi je reviendrai sur deux choses. La première, c'est il y a le beau dessin de Ledoux sur cet œil reflétant le théâtre de Besançon, et il y a vraiment quelque chose d'opératif à l'intérieur de ça, c'est-à-dire c'est l'œil comme un écran qui voit la structure, et donc cet écran est aussi le fantasme, et je crois qu'en fait Lequeu produit, et je reviens sur ce que disait Stéphane, il produit une scène qui ressemble à tout le monde, puisque tout le monde produit un fantasme, sauf qu'on n'a jamais le même fantasme dans la tête, et ça je trouve que c'est très intéressant. Et sinon, la question des noirs Alors que ce type fabrique des dessins avec des gris et une qualité d'ombre exceptionnelle pour son époque, et il fait du noir. Et moi, ça me fait penser à ça. Vous savez qu'il était obsédé quand même par le sexe des femmes, et qu'il a été aussi à la Bastille, non pas parce qu'il était révolutionnaire, surtout parce qu'il droguait des femmes pour savoir c'était quoi l'origine de leur sexe. Donc je crois qu'il partage au moins une obscurité ou ce continent noir qu'appelait Freud.
Un dernier mot, Anaëlle Pigeat, sur Jean-Jacques Lequeu.
Oui, il y a deux registres dans cette exposition. C'est-à-dire qu'on voit à la fois une traversée d'une période de l'histoire dans un raccourci assez saisissant. Il naît sous Louis XV, il meurt sous Charles X. On voit les dessins pour se sauver de la guillotine. On voit les palais de l'empereur qu'il fait dans les concours. Il fait les concours pour l'an 2, le palais de l'empereur qu'il fait ensuite. Et en même temps, il y a un degré de précision et de microcosme de son œuvre où on voit dans ses descriptions la description de l'argile molle, des molécules fondues à demi calcinées et d'une description de ses bâtiments qui sont d'une précision exceptionnelle.
Allez voir cette exposition Jean-Jacques Lequeu, bâtisseur de fantasmes au Petit Palais à Paris. Vous avez le temps puisque c'est jusqu'au 31 mars et c'est tant mieux. Alors, si vous pouvez l'acheter ou vous faire offrir, le catalogue est coédité par la BNF et Norma Édition. Et puis, on peut voir aussi quelques dessins de Jean-Jacques Lequeu. Ils sont pas tous au Petit Palais. Au Musée des Beaux-Arts de Rouen, il y a une exposition qui s'appelle l'art du dessin, pratique du dessin du XVIe siècle à nos jours. Et dans cette exposition, il y a des dessins de Jean-Jacques Lequeu. L'exposition des Beaux-Arts de Rouen, c'est jusqu'au 11 février. À suivre dans la dispute, Renoir, père et fils. L'avant-garde polonaise et un coup de cœur de Corinne Rondeau.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute, en nous rendant au Musée d'Orsay pour l'exposition Renoir, père et fils, peinture et cinéma, dans le titre assez explicite, mais évite de devoir sans doute en dire plus en guise de présentation. Mais Orsay nous invite à penser que c'est en interrogeant la peinture de Renoir, père et de ses contemporains, que Renoir, fils, a forgé sa personnalité artistique et établit son autonomie de cinéaste. Bon, on pourra revenir sur cette assertion. Dans un instant, après vous avoir dit que l'on trouve dans l'exposition des tableaux, des extraits de films, des photographies, des costumes, des affiches, des dessins, des documents, pour certains inédits, et les commissaires de cette exposition sont Sylvie Patry et Paul Perrin.
Je crois que le bon peintre est tout de même plus rare que le bon cinéaste. Parce que le bon peintre, n'ayant pas une technique développée, étant limité quant aux moyens, peut creuser plus profondément. Vous connaissez le proverbe, qui trop embrasse, bat l'étreint. Eh bien, je crois qu'en art, ça c'est extrêmement important. Le peintre a l'avantage de creuser dans le même petit trou. Et il peut aller très 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 profond. Il peut aller même jusqu'à essayer de trouver les rapports entre l'éternité et le moment, entre le monde et l'esprit. Le sens de la peinture peut aller extrêmement loin. Je crois que les peintres sont à l'heure actuelle les grands philosophes de notre temps.
On aura reconnu la voix inimitable de Jean Renoir. Corinne Rondeau, entre le père et le fils, je pense savoir qui a votre préférence.
Mais oui.
Parce qu'on a déjà souvent parlé du père Renoir.
Ouais.
Et de votre, je vais pas dire aversion.
Oui,
aversion pour sa peinture.
Non, mais je suis contente quand même au départ de la première salle, dans la mesure où, comme il y a à chaque fois une confrontation image mobile et image fixe, les tableaux du père, et pas que d'ailleurs, j'étais contente de revoir des paysages où en fait les personnages ne sont pas déterminés dans le paysage de Renoir et finalement ces silhouettes lointaines et perdues dans cette espèce de flou de sa touche m'ont un peu réconciliée. Mais je ne suis pas du tout réconciliée sur les gros plans, les nus,
la manière dont il...
Oui, les carnations qui sont trop rouges pour moi, enfin ça doit être mon œil, je m'excuse auprès de ceux qui adorent Renoir. Mais bon, voilà, c'était aussi... alors j'ai plutôt trouvé que l'exposition vraiment se tenait sur son fil, le fil que sur lequel vous, voilà, on est d'accord sur que l'assertion est assez vite faite finalement. Ouais. Mais l'exposition s'en sort assez bien par deux choses, je dirais. D'abord parce que le premier film qu'on voit, c'est la partie de campagne, c'est cette femme sur cette balançoire, c'est-à-dire c'est la phrase de Strindberg. Est-ce qu'on peut peindre du mouvement? Comment on peut représenter du mouvement? Et là, d'un coup, c'est la main avec la machine, c'est la main et la mécanisme, c'est deux yeux qui vont se confronter, deux regards. Et je dirais que ces hommes dans la campagne, ces hommes, il y a la promenade, un couple qui va, un homme tire une femme vers lui, ils vont rentrer dans une forêt sans doute, et qui fait effectivement appel à la mémoire qu'on a de partie de campagne, cette scène sublimissime qu'on a, voilà, où ça va s'allonger dans les herbes avec ce gros plan extraordinaire. Et donc, il y a toute cette question du mouvement, je dirais, de la nature et du mouvement qui est en jeu. Avec, alors, voilà. Et ça se fait de manière très simple dans l'exposition. C'est pas la peine d'aller chercher, c'est pas la peine d'en faire des montagnes, c'est pas la peine de rendre intelligente cette exposition. Je pense que ça ne sert à rien. Je pense que le mieux, c'est de lire les mémoires que Jean Renoir a écrit sur son père, plus les siennes, et revoir ses films. Et puis pour ceux qui aiment Renoir, revoir Renoir. Mais l'exposition est plutôt assez bien faite. Elle nous fait découvrir des poteries, parce que j'ignorais que Jean Renoir faisait des poteries. J'ignorais effectivement ce doute pour lui de qu'est-ce qu'il va faire, etc. Et puis, bien sûr, on n'ignorait pas l'attention qu'il avait eue avec son père, puisque quand son père est très malade, lui-même est un blessé de la guerre de 14-18, et ils vont passer quelques semaines ensemble, quelques mois ensemble, et il va regarder son père peindre, mais bon, il a été le modèle de son père, donc on va retrouver tout ça dans l'exposition. Donc il y a un déroulé comme ça, et puis l'exposition entre cette première partie de campagne, et on doit sortir chaque fois des salles, principalement. Et donc, on revient chaque fois dans une architecture qui est close, comme si on passait d'un plan à un autre plan. Un peu comme c'est chez Renoir, cette manière qu'il a de faire des tableaux sur des personnages, comme ça, ou des groupes de personnages. Et à la fin de cette ligne, comme ça, de salle, on a le déjeuner sur l'herbe. Donc, il y a quelque chose de la nature qui revient. On a quelque chose d'une chronologie qui s'ouvre et qui, en même temps, se déploie dans l'histoire du modèle qu'a été à la fois Jean Renoir, mais il a été aussi son premier modèle pour sa femme, avec laquelle il commence son cinéma de muet, ben c'est le dernier modèle de son père. Donc, en fait, ils partagent un même modèle, ils partagent une même femme. Et puis, il y a ce retour, je dirais, j'y reviendrai après, sur cette salle avec le fleuve de Jean Renoir. Et je trouve qu'il y a cette ligne, ces sorties, ces retours dans l'espace. Et puis, et je trouve que cet intérêt, il y a un beau mouvement avec le fleuve, je trouve, à la fin.
On reviendra sur le fleuve. Annelle Pija.
Effectivement, c'est une exposition qui se situe plutôt du point de vue du cinéma, en fait, qui examine la manière dont l'œuvre de Renoir père remonte dans l'œuvre cinématographique de Jean Renoir. Finalement, il y a plusieurs étapes dans ce cheminement. Il y a en fait, l'exposition d'abord se situe forcément du point de vue de l'humain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas être saisi par ces destinées comme un peu singulières. Donc, comme le disait Corinne, le dernier modèle du père qui devient la femme du fils, c'est donc ce personnage qui est d'ailleurs assez méconnaissable, Dédé dans la peinture de Pierre-Auguste Renoir et Catherine Essling dans les films de Jean Renoir, qui est d'un côté une femme plantureuse, de l'autre côté une femme petite et musclée, ce qui est quand même un peu étonnant. On examine aussi le rapport de Jean Renoir avec les tableaux de son père, qu'il vend d'abord pour faire des films. Il vend son héritage pour faire des films, sauf son portrait en chasseur qu'il garde tout au long de sa vie. Et ensuite, quand il s'installe en Californie, il rachète un certain nombre de tableaux dont il vit entouré en Californie et aussi à Cagnes-sur-Mer, où il revient s'installer dans les années 50. Il y a ces lieux qu'il partage, le père et le fils, il y a Montmartre et Cagnes-sur-Mer. Alors finalement, d'un point de vue des formes, il y a un certain nombre de citations directes. Par exemple, Jean Renoir dit que c'est Nana qui lui a, que c'est son père qui lui a dit, qui lui a inspiré l'idée de faire un film à partir du roman de Zola, Nana, Zola que Renoir père a connu. Il y a aussi la citation des lieux, donc à côté de Marlotte, à côté de Paris pour partie de campagne, et puis Cagnes-sur-Mer pour le déjeuner sur l'herbe. Mais au fond, je trouve que l'endroit où ces situations deviennent le plus intéressantes, ce sont des citations indirectes. Enfin, c'est finalement la présence indirecte du père chez le fils, ou du travail du père chez le fils, à travers la couleur, le rouge très saisissant du fleuve. Donc ce film tourné en Inde à la fin, premier film en Technicolor fait par Jean Renoir. Il y a aussi une manière dont l'air circule dans les herbes, dans le déjeuner sur l'herbe, qui rappelle étonnamment, comme vous le disiez... Comment ?
C'est l'eau.
Non, c'est de l'herbe.
Il y a, oui, des, il y a des herbes. Dans l'eau.
Oui, c'est de l'eau, mais c'est des herbes qui bougent.
Oui, c'est important.
En tout cas, qui dessine un écho avec les tableaux de Renoir qui sont dans la première pièce. Et finalement, on voit comme ça un certain nombre de correspondance entre l'œuvre de l'un et l'œuvre de l'autre, avec néanmoins un certain nombre de différences, et notamment la question de l'ironie et de la cruauté qui sont chez le fils et qui, à mon avis, ne sont pas du tout chez le père.
Stéphane Coréard, pour finir ce premier tour de table.
Tout d'abord, c'est Renoir. Curieux parce qu'il y a 12 ans, il y a quand même eu une exposition sur le même thème à la Cinémathèque.
Ouais. Mmh. Là, c'est le match retour.
Les commissaires, je crois, étaient Serge Toubiana et Serge Lemoine. Mmh. Oui, d'ailleurs, Laurence Descartes écrit de manière un petit peu cruelle, je trouve, dans sa préface, que c'est la première exposition de musée consacrée au sujet. Ah. Ce qui est une petite pique pour la Cinémathèque.
L'exposition c'est pas cruel, était... c'est pour pouvoir, vous savez, c'est l'éternelle histoire de la première fois.
L'exposition
était... Il faut être la première fois de quelque chose.
Se déployait...
C'est une chanson.
Pardon ?
C'est une chanson.
Je sais pas, sans doute.
L'exposition se déployait fois. En plus, je trouve, dans mon souvenir, beaucoup mieux à la Cinémathèque et dans les salles de Cinémathèque où ça respirait, dans mon souvenir, beaucoup mieux. Il y avait la même séance autour, effectivement, de la balançoire. Alors d'abord, il y a l'exposition, c'est effectivement Renoir, père et fils. Ça pourrait être aussi Renoir, fils et Manet, par exemple, ou Renoir, fils et Toulouse-Lautrec. Finalement, ça aurait autant de sens. Peut-être du point de vue des œuvres, si ce n'est plus. Il y a quand même un hiatus dans l'exposition, c'est qu'évidemment toute la première partie de l'œuvre cinématographique de Jean Renoir est en noir et blanc, là où évidemment l'impressionnisme et notamment la peinture de son père sont quand même très marqués par la couleur. Donc ça, je regrette personnellement qu'il n'y ait pas eu justement de dessins, de gravures ou de sculptures de bronze de Renoir, peut-être pour père,
pour jouer le noir et blanc.
En tout cas, voir justement comment ça pouvait jouer à ce moment-là. Je trouve ça curieux de n'avoir mis que des peintures. Après, quand je dis effectivement ça aurait pu être aussi Manet ou Toulouse-Lautrec, c'est parce que moi, ce qui m'a frappé au-delà des analogies formelles, des allers-retours qui parfois me semblent un petit peu forcés, y compris dans ce que dit le fils, c'est d'abord une nostalgie. D'ailleurs, Jean Renoir disait lui-même qu'il était un homme du 19e siècle. Mmh. Et c'est vrai qu'on sent qu'il est toujours attiré par cette période. Effectivement, on a parlé de Zola, on pourrait parler de Maupassant, mais aussi moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est son rapport avec Gabriel, qui a été aussi le modèle de son père, mais sa nounou quand il était petit. D'ailleurs, il y a plusieurs tableaux qu'il représente avec elle. Et elle a épousé un riche peintre américain, Conrad Slade, et elle va vivre aux États-Unis. Quand Jean Renoir lui-même va à Hollywood, il n'a de cesse que de la faire revenir à côté de lui, et de lui parler de son père, de lui parler de lui petit, de lui parler d'elle posant pour son père, etc. Et on sent cette nostalgie viscérale que j'ai trouvée assez touchante, surtout avec ce personnage de Gabriel, finalement, qui est réhabilité par rapport justement à Dédé, qui, elle, n'a jamais eu droit à son vrai portrait par le père, n'a jamais été vraiment nommée, était sans doute plutôt une silhouette qu'autre chose, même si effectivement la silhouette musclée se transforme en silhouette dodue dans les tableaux du père. C'est effectivement beaucoup une histoire d'homme aussi. Alors là, effectivement, il y a eu aussi cette exposition de l'orangerie sur les enfants modèles, etc. Alors on voit d'ailleurs, c'est très troublant que, par exemple, on nous dit d'ailleurs dans le catalogue que c'est quasiment... comme dans toutes les familles bourgeoises, le seul moment, il avait très peu de rapports avec son père, finalement, quand il était petit, le seul moment où il avait des rapports avec son père, c'est quand il posait pour lui.
Oui.
Voilà, et c'est pour ça qu'il fallait notamment Gabriel pour s'occuper de lui. Son père, pendant toute une période, refuse qu'il se coupe les cheveux. Et donc, il ressemble vraiment franchement à une petite fille. Ce qui est assez troublant, parce que Renoir n'a eu que des fils officiels et deux filles avec des maîtresses qu'il n'a pas reconnues, etc. Donc moi, personnellement, j'y ai vu, sans faire de psychanalyse de cuisine, en tout cas un rapport assez étrange de vouloir que son fils ait cette allure de fille. Effectivement, les dernières années de la vie de Renoir, père, Renoir fils, fait de la céramique, ce qui, dans mon souvenir, n'était pas présent à la Cinémathèque. Là, il y a un groupe qui vient de la Fondation Barnes, puisque c'est aussi en collaboration avec la Fondation qui a fait l'exposition. On n'a rien raté en termes de céramique. D'ailleurs, lui, je pense que c'était pas... Mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant à découvrir parce que, même si c'est anecdotique, c'est une part un peu méconnue. Lui-même, d'ailleurs, arrête de faire de la céramique en disant les gens voudront toujours s'acheter un Renoir pour pas cher. Mais là, il n'y a pas de céramique du père non plus, ce qui est aussi, je trouve, dommage. Voilà, il y a plusieurs petits rendez-vous, à mon avis, manqués dans l'exposition.
Ouais, la Fondation Barnes, l'expo y était juste avant. Corinne Rondeau.
Oui, c'est parce qu'en fait, il signait Renoir et il voulait acheter les poterets à cause de Renoir. Ça ne lui plaisait pas du tout.
Bien sûr.
L'exposition, c'est juste des points de contact. C'est écrit dans le catalogue, c'est pas la peine d'aller. Mais moi, je trouve ça beau, le fleuve qui est tout seul, parce qu'il n'y a pas de tableau. Dans cette salle, c'est le dernier. Et c'est aussi. Il y a la citation du père, je crois, tout de même, qui est La vie, c'est un bouchon qui suit le courant, finalement. Et je trouve, non, mais ce film est, non, mais ce film est tellement merveilleux parce qu'il commence en fait par des mains de femmes qui créent une sorte de rosace, une géométrie au sol. Et c'est beau parce que c'est une manière de remettre du corps à l'intérieur de ce film qui est aussi autour du fleuve et que cette eau, elle est tout le temps dans l'œuvre de Renoir, Jean. Et c'est aussi un film sur le temps qui passe, cette scène où le petit enfant meurt, enfin, et c'est l'enfant qui part. Et je trouve que ce film, qui est tout seul dans cette salle, c'est aussi le film de Renoir, qui devient l'homme libre une fois qu'il a donné tout ce qu'il avait à donner finalement comme amour du père, parce que c'est là où il est le plus lointain, jusqu'en Inde, qu'il est au plus près, je dirais, de la création de son père, en tout cas de la création au sens simple du terme, avec ses matériaux. Et ça, j'ai plutôt apprécié cet éloignement du point de contact.
Amel Pisa, enfin.
Oui, il y a dans tout ça une sorte de grande mise en scène, en fait, de la part de Jean Renoir, de ses relations avec son père. C'est-à-dire qu'on comprend qu'au fond, La Règle du jeu est un de ses premiers grands succès, à partir duquel lui aussi est appelé le patron. Plus tard, un grand succès.
Enfin, La Grande Illusion est un grand succès.
Il réalise un certain nombre de films comme ça qui lui permettent de s'affranchir et de s'affirmer. Et puis, au bout d'un moment, il joue d'une certaine manière avec les médias, avec les magazines, comme il joue le rôle du fils de Pierre-Auguste Renoir. Et il y a là une sorte de chose consciente et de mise en scène qui, en effet, se dénoue à partir du fleuve quand il part et que les choses se libèrent.
Oui, c'est sûr que le fleuve est très à part de toute façon dans l'œuvre de Jean Renoir sur les rapports avec son père. On n'en saura rien d'autre que ce qu'il a bien voulu en dire quand même, Stéphane Correa.
Oui, c'est vrai que c'est un film très singulier. Je sais pas, on peut conseiller évidemment de le voir. Ce qui est intéressant effectivement, c'est que là, il est vraiment sur le terrain de la couleur. D'ailleurs, il a même repeint des végétaux pour que à l'image ce soit plus intense. Ce que j'ai trouvé très très touchant aussi, c'est que c'est son neveu qui fait à ce moment-là la photographie pour lui, hein, Claude Junior, et qui a tourné d'ailleurs des plans tout seul sur le fleuve, etc. Où Jean Renoir n'était même pas au courant qu'il a intégré ensuite dans le film. Non, mais paraît-il. Et d'ailleurs, ce qui donne aussi un peu de son étrangeté au film, où parfois il y a une espèce de voix off, un peu documentaire, on comprend pas très bien ce qui se passe. Mais ce qui est drôle, d'ailleurs, c'est qu'à propos du fleuve lui-même, Jean Renoir écrit « Les couleurs n'y sont pas vives tout en n'étant pas mélangées. Leur légèreté fait penser à Marie Laurencin, à Dufy, et j'ose l'ajouter, à Matisse. » Ce qui évidemment ne manque pas de sel.
Renoir, père et fils, peinture et cinéma, c'est à voir au musée d'Orsay jusqu'au 27 janvier. Il y a un catalogue, bien sûr, coédité par Orsay et Flammarion. Et c'est le moment du coup de cœur en moins de 10 minutes de Corinne Rondeau pour le livre « Les métamorphoses de l'argentique ». C'est un livre de Denis Breillat aux éditions « Le bec en l'air ». On parle souvent des éditions « Le bec en l'air ». On les salue à nouveau.
Bah oui, parce que là, c'est vraiment, c'est pas seulement, je dirais même, la rencontre d'un photographe, de ses photographies avec un éditeur. Parce que le livre est tout à fait admirable en termes de reproduction des images. C'est un objet exceptionnel qu'on doit avoir. Mais c'est surtout aussi repenser à Denis Breillat, qui a 70 ans de carrière derrière lui, qui a été un grand ami de Doisneau, mais aussi de Jean-Pierre Sudre. C'est pas du tout un inconnu, mais c'est quelqu'un qui est parti et qui, depuis 60 ans, quasiment, vit dans le Vaucluse. Et en fait, ce livre nous montre, et il le dit dans sa petite introduction, « Voici mes tours de main ». C'est quelqu'un qui va travailler justement sur le travail de ces noirs et blancs et qui vont passer au virage, à la sulfuration, à l'oxydation, à la gravure. Et ce qui est absolument admirable, c'est que c'est quelqu'un qui va travailler comme un chimiste. Et vous avez dans le catalogue toutes ces recettes. Et vous avez aussi toute la durée qu'il faut pour faire venir de ces photos noires et blancs à la couleur. La couleur, c'est quand même la couleur de la vie. Et lorsque, effectivement, la couleur, c'est aussi ce qui active le plus notre subjectivité, eh bien, Denis Breillat, il a la simplicité et aussi la rigueur de dire ben, c'est l'expression de sa propre sensibilité. Et c'est ça qui est remarquable, c'est n'être qu'à travers sa sensibilité, être depuis 70 ans à la quête de cette sensibilité, avec cet exil volontaire. Et cet exil, ben, ça se paie aussi pour, de ne pas être au centre, je veux dire, de l'histoire photographique. graphique. Et donc, acheter ce livre, c'est pas que remettre Dominique Bria là où il doit être en termes de fabricateur, littéralement, d'images à travers ces noirs et blancs. C'est quelqu'un qui a vécu les objectifs sans obturateur, donc au jugé, et cette dimension de l'expérimentation, on la retrouve au début de sa pratique, mais aussi à l'intérieur de son atelier de chimie, on va dire. Et c'est absolument merveilleux, ce formalisme n'en est pas un, parce qu'il a passé 60 ans à photographier des oignons, 10 ans à photographier des cerisiers, 3 ans à photographier des tulipes, mais il y a des kiwis, mais il y a des armes, mais il y a... Et ce sont des gros plans, on va dire, de ces choses qui sont des choses qu'on ne regarde pas. Et d'un coup, ces choses qu'on ne regarde pas viennent à nous avec une sensibilité qui est celle du photographe, sans doute. Mais c'est surtout qu'il fait apparaître quelque chose par la photographie de réel. C'est un réel de la photographie. Et qui est pour le moins, je dirais, grâce à la chimie, inimitable. Autrement dit, comment on peut prendre au sérieux un oignon ?
Les métamorphoses de l'argentique, c'est le titre de ce livre de Denis Bria. Aux éditions Le Bec en l'air.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Le dernier sujet de cette dispute art plastique, une avant-garde polonaise, Katarina Kobro et Władysław Strzemiński. C'est au centre Pompidou, dans un commissariat de Karolina Zybianska, Lewandowska et Jarosław Suchan. Cette avant-garde polonaise des années 20, elle est constructiviste. Katarina Kobro et Władysław Strzemiński en sont les fers de lance. Kobro sculpte, Strzemiński peint. Toutes deux théorisent leur pratique. On note que cette exposition a été réalisée avec le musée de Łódź, fondé par le couple d'artistes. Une avant-garde polonaise. C'est jusqu'au 14 janvier au centre Pompidou. Il faut se dépêcher. Anaël Pigeon, n'est-ce pas ?
Il faut se dépêcher pour découvrir un pan de l'histoire de l'art qu'on ne connaît pas forcément, qui a été montré un peu au centre Pompidou en 1983, dans présence polonaise.
Vous y étiez
polonaise.
Peut-être. Non, presque. Franchement, c'est vraiment une découverte, là.
L'exposition Promesse du passé, c'est évidemment une découverte de ce couple dont, bizarrement, on connaît plus l'homme que la femme. On connaît un peu plus Strzemiński que Katarina.
C'est vrai que c'est très bizarre. Dans l'histoire de l'art, c'est rare qu'on connaisse plus l'homme que la femme, c'est vrai.
Et voilà, une exposition à Metz en a témoigné récemment. Ce qui est intéressant chez ces deux artistes, c'est qu'ils sont extraordinairement complets. Ils se rencontrent à Moscou en 1917 et ils commencent une pratique artistique, donc comme vous le disiez Arnaud, lui dans la peinture, elle dans la sculpture, qu'il théorise aussitôt. Lui parle d'unisme, c'est-à-dire que c'est une vision très radicale de la peinture qui évacue le mouvement, le temps, les volumes, le monde extérieur. Il dit « Chaque centimètre carré de la toile est d'égale valeur et joue un rôle identique dans la construction de l'image.
Ouais, » après, il faut se débrouiller avec ça.
Voilà. Il y a une certaine aridité dans ces toiles, dont on peut dire un mot, qui sont donc des toiles de couleurs assez claires, avec des formes abstraites sur des fonds colorés, des bleus, des roses, des jaunes. Katarina Kobro, quant à elle, fait une sculpture qui est proche de l'architecture. Au fond, on ne sait pas très bien si ce sont des maquettes ou si ce sont des sculptures. Pour elle, il faut que l'espace soit absolument réunie à la sculpture. Elle dit la sculpture n'a rien à voir avec la littérature, le symbolisme, la psychologie individuelle ou l'émotion. Elle consiste seulement à modeler l'espace. Donc, ils mettent en œuvre l'un et l'autre, c'est leurs œuvres respectives, mais ils ont aussi une pratique dans le siècle et ils considèrent que l'art doit être lié à la société. Et ils font cette entreprise absolument extraordinaire qui est de créer il ouvre en 1931 la première collection d'art moderne, le musée de Łódź, qui est très bien évoqué dans l'exposition, avec un certain nombre de tableaux qui ont été rassemblés, qui sont venus de Łódź, et 5 tableaux qui viennent de la collection du Centre Pompidou. Donc là, on voit par exemple Hélion, Van Desbourg, Jean Gorin, Sophie Tauber-Harp, une fleur de Max Ernst. Il faut savoir que ces avant-gardes polonaises vivent évidemment très retranchées derrière le rideau de fer, mais qu'il y a eu quand même un certain nombre de points de contact avec le monde occidental. Je trouve peut-être que s'il y avait une chose à améliorer dans l'exposition, qui est absolument passionnante, mais elle pourrait avoir un peu plus de contexte, de remise en contexte de tout ce paysage, parce que Katarina Kobro et Streminski font aussi du design, dessinent des tissus, font un projet de villa pour Julien Pribos, je ne sais pas comment on le prononce, qui est une villa dans la nature. Et puis, il y a un moment où leur œuvre bascule, et moi c'est ce qui m'a semblé le plus saisissant et qui m'a le plus intéressée, ce sont les paysages marins qui arrivent dans les années 30 et qui font un basculement avec la guerre et avec les dessins que Władysław Streminski fait à propos de l'expérience de la guerre et qui, dans lequel tout d'un coup, il crée un lien avec le réel.
Et puis il y a aussi, pour le contexte, le choix de la Pologne, parce que ça n'avait rien d'évident. Il y a un moment donné où effectivement, ils choisissent, parce qu'elle est d'origine russe
et
allemande. Enfin bon, il y a un choix aussi d'être dans ce pays-là, à ce moment-là de l'histoire, qui n'est pas tout à fait rien non plus. Regarde Stéphane Coréard sur cette exposition, une avant-garde polonaise à Beaubourg.
Ah bah alors là, écoutez, j'ai pas du tout le même regard qu'un Anaël Pijat, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai que c'est une vraie découverte, mais enfin pour moi, c'est quand même la découverte de l'eau tiède polonaise, ce qui n'est pas tout à fait comme n'importe quelle eau tiède, mais quand même, d'abord, excusez-moi de dire qu'on a déjà vu la même exposition, non pas il y a 12 ans comme Renoir, mais on a vu la même exposition il y a 6 mois sur l'école de Vitebsk. Bah, écoutez, c'est exactement conçu de la même manière, il y a la mise en place du vocabulaire suprématiste, le musée, et puis ensuite les arts appliqués, etc. C'est exactement la même exposition, sauf que cette fois-ci, effectivement, on est à Łódź et non plus à Vitebsk. Il aurait mieux fait de le faire, à mon avis, à l'intérieur, ou en même temps, ça aurait été comme ça un bon package. Les temps sont exactement les mêmes.
Corinne Rondeau boue, mais c'est bien.
Effectivement, ils sont d'ailleurs russes. Ils ont été proches de Lissitzky et de Malevitch. Ouais. Donc, ouais. Exactement comme ce qui s'est passé à Vitebsk. Et leurs œuvres seront remarquablement similaires à bien des égards. Je trouve que donc l'exposition, comme je viens de le dire, est conçue en 3 temps. Je trouve que ces 3 temps ont quelques points quand même d'intérêt, mais à mon avis aussi beaucoup de faiblesses. Ça commence pourtant plutôt bien, parce qu'il y a 2 sculptures suspendues de Katarina Kobro, qui sont assez belles, même si ce sont des répliques posthumes, ce qui est toujours un petit peu problématique. C'est quand même 25 ans après sa mort, hein, donc bon,
il faut
savoir quelle est ça.
Soit 25 ans ou 25 jours.
Oui, voilà, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que les originaux étaient a priori assez loin. Mais enfin, on se dit, voilà, on va avoir quelque chose d'assez novateur. On dirait presque des sculptures inutiles de Munari. Quand on rentre, effectivement, c'est plus du tout ça. C'est du suprématisme, on va dire. Des compositions unies, effectivement. Que les monochromes, de Streminski sont assez intéressants, totalement texturés, comme ça, travaillés dans la peinture elle-même, dans la pâte. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est à mon avis, les seules choses intéressantes de l'exposition.
On va ouvrir un canal séparé pour les commentaires de Corinne Rondeau, qui est excellent.
Vous pourrez parler après, je pense, Corinne. La partie sur le musée de Łódź est quand même navrante, c'est très mineur. C'est des œuvres, pour la plupart, de second couteau, à part peut-être Fernand Léger, mais qui est présenté par 2 choses quand même très très mineures. Prampolini, Hélion, Gorin, tout ça est quand même vraiment de deuxième zone. Les seules bonnes surprises pour moi, c'est Sophie Tauber-Harp, qui est toujours au-dessus du lot. Il y a un très beau papier qui vient du musée de Łódź, renforcé par une toile qui vient du MNAM. Un petit point intéressant aussi, c'est de voir que nos amis suprématistes font un lien d'eux-mêmes avec Dada, le surréalisme, puisqu'il y a effectivement un Max Ernst là aussi très mineur, mais en revanche une grande toile de Kurt Seligman plus intéressante, en plus c'est un artiste qu'on voit plus rarement. Et puis alors à la fin, la troisième partie, là c'est carrément la catastrophe, c'est-à-dire que l'œuvre est tellement stéréotypée, le système finit par faire problème, c'est-à-dire que notre ami Streminski, là, qui fait ses petits amibes, là je crois qu'il appelle ça un peu comme ça, enfin il fait des espèces de petites formes comme ça, un petit peu comme on fait au téléphone, alors il en fait partout. Alors parfois c'est un projet de tissu, parfois c'est des images de la guerre, parfois c'est des chômeurs, parfois c'est sur les grandes concentration. Alors il fait les mêmes petits amibes. Alors de toute façon, il est là, c'est comme si on lui mettait les papiers sous la main. Puis une fois c'est vierge, donc ça fait juste des petits amibes. Et puis parfois il y a ce portfolio qui s'appelle à mes amis les juifs, qui fait quand même après la guerre, c'est quand même moins risqué. Mais bon voilà, après il court quand même après la commande. Alors je comprends qu'il ait pas eu de succès, le pauvre Streminski. Mais enfin là carrément, c'est pathétique. C'est-à-dire que ses projets de lit et de causeuses de meubles sont juste nuls. Enfin je veux dire, on est quand même en 48-49, c'est carrément 25 ans après le Bauhaus et ça n'a strictement aucun intérêt, je suis désolé de vous le dire Corinne. Ces présentoirs d'après-guerre, si on compare avec ceux du groupe des
qui voulait vous laisser son temps de parole,
qui avait dans l'expo de Vitebsk, ça n'a strictement rien à voir. Et puis alors évidemment, le sommet, le pompon, c'est les œuvres socialistes, abstraites socialistes, qu'il essaye de proposer comme une alternative au réalisme socialiste, donc de 48-49, et même avec ça, il n'arrive pas à avoir de commande.
Eh bien, Corinne, vous avez survécu.
J'ai combien de temps?
Tout le temps, on va aller jusqu'au bout de la nuit.
Écoutez, moi je trouve cette exposition absolument admirable. Admirable, et je suis tout à fait convaincue qu'il faut aller voir cette exposition, même et surtout après Vitebsk, l'exposition sur l'avant-garde russe qu'il y a eu il y a quelques mois. Je trouve que c'est important, sans vouloir faire du nationalisme, de voir qu'il y a eu quand même un travail extrême de la part de deux gens qui se sont retrouvés entre la Russie et l'Allemagne, qui se sont pris plein la gueule avec le nazisme et avec le stalinisme, qui ont vécu dans des conditions abominables et qui en sont morts aussi. Mais au-delà de ça, vous parlez de suprématisme, mais ils ont critiqué Malevitch, ils ont critiqué la méthode universelle. Vous voyez dans toute cette exposition une déclinaison de tout ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur des spécificités. Ils sont à l'orée de ce qu'ils appellent l'utopie réelle, c'est-à-dire effectivement une ambition, on va dire, de changer la société à partir des activités quotidiennes. Je dois bien dire que chaque fois, ça nous surprend quand on lit ça et qu'on voit ce qu'ils font. Or, je crois qu'ils ont fait ce que n'a pas fait Malevitch, même si la construction suspendue que vous avez beaucoup aimée, qui se retrouvait dans l'exposition de Vitebsk et à l'entrée de cette exposition, hein, c'est une construction au suprématisme en volume. Voilà. Sauf que lorsque vous rentrez dans la salle, des tableaux à la fois des compositions architectoniques et des tableaux unistes qui sont extrêmement remarquables, vous l'avez noté Stéphane, Anaëlle aussi, mais ces tableaux ont une telle densité que, effectivement, vous l'avez dit, pas de temps, pas de mouvement et pas de direction. Ils ont une immobilité extrême. C'est-à-dire, vous vous approchez parce que c'est du plomb. C'est du plomb. Et là, effectivement, vous approchez, vous voyez que les touches, c'est deux ou trois couleurs, pas plus, sont des formes géométriques. Vous voyez que là, sur les constructions, vous voyez que ça tient. Je veux dire que là, la hauteur est construite par la largeur. Vous voyez que c'est du volume à plat. Effectivement, l'unisme, c'est travailler sur une surface plane. C'est l'unité clé avec un cercle, un cadrage, mais aussi un recouvrement total, c'est-à-dire qu'il faut être dans l'unité idéale et il faut être dans une unité organique. Il faut, je viens, ça, et là-dessus, je trouve que ces tableaux-là relèvent parfaitement de la définition. Le problème, c'est que quand vous immobilisez ça pour faire une utopie réelle, vous enlevez ce qui est, je dirais, la critique même moderniste, vous enlevez tout le drame historique. Et quand vous faites de la géométrie, mais c'est même le problème de Lequeux, quand vous êtes ailleurs et dans une maîtrise de la géométrie, vous enlevez tous les accidents de l'histoire. Et il y a avec l'anti-unisme qu'il déclare, un retour du refoulé, un déni, le drame arrive, mais au moment où ils en prennent conscience, c'est aussi le moment où l'organisation, je dirais, visuelle et structurelle de la peinture, relève de l'explosion de l'organisation sociale. Et ce que je trouve absolument admirable, indépendamment de cette salle qui relève de l'or, je dirais, la postérité qu'ils veulent d'un courant artistique moderne, international, dans le musée, et pour le musée de Lodz, c'est qu'il y a un mouvement qui réintroduit du réel au moment où justement ils comprennent que l'utopie n'a jamais que la limite de sa propre pensée. Et là où vous appelez de l'amibe, je suis désolée, ce trait noir qui ressemble peut-être à une amibe, mais c'est évoqué effectivement, c'est aussi un trait bleu pour faire du tissu. C'est-à-dire c'est le tressage de l'homme Et dans le terme du graphisme, c'est aussi des gens qui ont travaillé, je dirais, à du photocollage qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu ailleurs. Et c'est le retour, excusez-moi Arnaud, sur tous les titres, le retour à la, au corps, c'est-à-dire le portrait, mais c'est aussi les images rémanentes et où il y a, on parle de soleil, la rémanence du soleil. C'est-à-dire, ils ont tout perdu, il ne reste que la trace de ce qui reste. Là où vous aimez pas, là où c'est pas bon, eh ben c'est quand même comment on fait quand on a plus rien. C'est-à-dire que les traces d'un monde auquel on a cru et qui n'a été qu'un retour du refoulé et un déni absolu, c'est-à-dire aussi la confrontation au réel de la guerre.
Quelques tout petits mots, Alain Pigeard.
Je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Corinne.
Quelques secondes.
Encore pour dire que il rethéorise à la fin cette idée de la conscience visuelle.
La théorie visuelle,
en faisant un livre qui s'appelle Théorie de la vision, et on a quelques exemples à la fin de l'exposition, et dans lequel il exprime l'idée que la vision serait de l'ordre de l'interprétation.
Stéphane, dernier mot.
La meilleure raison d'avoir cette exposition, c'est que le Centre Pompidou offre un billet
unique.
C'est
avec Corinne Rondeau.
Non, c'est un billet unique, donc vous ne payerez pas plus cher. Donc allez la voir et puis vous verrez de quelle opinion vous vous rapprochez.
Allez-y.
Les structures architecturales de Kobo sont extraordinaires. Je vous assure, c'est la perception, comme les minimalismes vont le développer. C'est-à-dire qu'il y a, écoutez, moi je trouve ça épatant, il faut aller voir cette expo.
Et on a jusqu'au 14 janvier pour aller voir cette avant-garde polonaise, Katarina Kobro, Władysław Strzemiński. Et puis on peut aussi, pareillement, se faire offrir ou s'acheter le catalogue coédité par le Centre, non? Et l'édition Skira, pas sûr, Corinne Rondeau.
Ils auraient pu faire mieux.
Ils auraient pu faire mieux, mais ils ont déjà fait ça. Allez.
Ouais, c'est déjà beau.
Et avant de conclure, un autre cadeau. Ça, c'est Sarah Dion qui s'en occupe. Le jeu de la dispute. D'abord, la question d'hier soir et sa réponse, Sarah.
La question était: de quel théâtre parisien Johann Bourgeois a-t-il signé la première production au mois de septembre? Et la réponse est la Scala.
Ce soir, des invitations pour le film Monsieur. Alors, il y en a deux films qui s'appellent Monsieur ce mois-ci. Nous, c'est celui de Rowena Gera, qui est sorti aujourd'hui au cinéma. La question?
Justement, à qui doit-on également le deuxième film intitulé Monsieur est sorti ce mois-ci?
Oula, j'ai failli le dire dans mon lancement. Heureusement. Bon, et si vous avez la bonne réponse, vous nous écrivez. Vous indiquez vos coordonnées postales. Vous nous écrivez par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter notre émission et vous abonner à son podcast. Rendez-vous demain à 19h pour une dispute consacrée à la littérature en compagnie de Lucille Como, Jean-Christophe Brianchon, Florent Georgesco. Nous parlerons de Sud et Ouest de John Didion, Des raisons de se plaindre de Jeffrey Eugenides aux éditions de l'Olivier, L'enfant rouge de Franck Venaille au Mercure de France. Il y aura un coup de cœur signé Florent Georgesco pour les grands poèmes de Marina Tsvetaïeva aux éditions des Sirtes.